Il est 6h40, c'est l'heure du Journal des idées sur France Culture. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Coquerel.
Jacques, il y a eu plusieurs crises cet été entre la Chine à Hong Kong, les tensions en mer Égée entre la Turquie et deux États membres de l'Union européenne, et puis le soulèvement de la population en Biélorussie et à ses frontières. Tout cela pose la question d'une diplomatie européenne.
Oui, comme le rappelle Pierre Aski dans l'Obs, Ursula von der Leyen avait prévenu que la Commission européenne, qu'elle préside depuis l'an dernier, serait géopolitique, signifiant par là que l'Europe serait désormais au rendez-vous des défis du monde, d'un monde en pleine mutation après une décennie où elle a donné le sentiment de courir derrière. Il est vrai que dans tous ces dossiers, elle a affaire à des régimes autoritaires qui ne croient qu'au rapport de force, là où les Européens privilégient la diplomatie classique. Pierre Aski souligne la coordination presque parfaite entre Paris et Berlin, un atout dans ce contexte car même l'allié américain du moment ne prend en compte que ses propres intérêts. Je cite, Washington veut forcer la main aux Européens pour isoler la Chine ou réimposer des sanctions à l'Iran et dit tout haut sa frustration lorsque le vieux continent ne suit pas mais reste muet lorsque des membres de l'OTAN sont au bord du conflit ou que des événements aux frontières orientales de l'Union exigeraient au minimum une concertation transatlantique. Le jeu diplomatique paraît marginalisé au profit d'une vision manichéenne du monde qui privilégie la guerre et les sanctions commerciales comme instrument de la politique étrangère, observe Marc Endeveld dans Le Monde diplomatique. Son enquête détaille les évolutions de la diplomatie française depuis l'axiome gaulliste « une France alliée mais non alignée », respectée jusqu'à la présidence Chirac, puis abandonnée par messieurs Sarkozy et Hollande, avec l'arrivée au Quai d'Orsay de diplomates néoconservateurs. Ceux-ci avaient commencé à se manifester et s'organiser lors de l'opposition de Jacques Chirac à la guerre américaine en Irak, réclamant une rupture avec l'héritage gaulliste et la politique arabe de la France. Depuis, ceux que leurs détracteurs surnomment la secte ont vu leur influence grandir, notamment depuis le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN sous Sarkozy. Partisans d'une défense agressive des valeurs occidentales et de l'hégémonie américaine, ils ont étendu cette influence au grand centre de formation des diplomates. Depuis les années 2000, l'enseignement des relations internationales à Sciences Po, qui continue d'être dispensé à la plupart des futurs diplomates français, confronte les étudiants à d'autres représentations de la politique étrangère de la France que celle de l'indépendance et du rang, observe Christian Lequen, professeur au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, l'auteur d'une ethnographie du Quai d'Orsay, ajoute que les rapports de force au sein du ministère des Affaires étrangères s'en sont trouvés bouleversés. La noblesse du Quai, c'était les arabisants. Maintenant, ce sont les énarques qui font carrière. Reste une forme aristocratique de culture de cour, une sorte d'habitus commun aux diplomates du monde entier, fait de contrôle de soi et de retenue qui projette l'image idéale dont les États devraient se comporter les uns avec les autres. Dans la dernière livraison de la revue Terrain, intitulée « Homo diplomaticus », l'ex-ambassadeur Yves Saint-Jour évoque ses traits de comportement très codifiés. Combinaison d'affabilité, d'une certaine distance, esprit, art de converser, prudence d'expression publique, le tout formant un idéal de civilité qui rejoint le sens même d'une négociation, la paix, la conciliation. Le diplomate déplore le recul des relations multilatérales, le retour des rapports de force, le spleen des diplomates brésiliens et américains, et il revient sur l'éphémère succès de la COP21 qu'il a contribué à préparer. Là, de nouvelles formes de diplomatie se sont affirmées, plus transversales et planétaires, conduites par les ONG, les peuples autochtones, des cercles régionaux ou de petites îles en voie de disparition à cause de la montée des eaux. Les diplomates n'ignorent pas que la nature est devenue un sujet de droit dans certaines constitutions, en Équateur, Bolivie, que telle rivière en Nouvelle-Zélande, telle montagne en Afrique l'est aussi. Le dossier proposé par la revue explore ces horizons ouverts par l'écologie et les relations avec les êtres non humains, et il revient également sur les pratiques des peuples traditionnels en matière de résolution rituelle des conflits, non pas pour les supprimer ou les mettre sous le boisseau, mais au contraire pour les exprimer et les canaliser dans une forme de jeu dangereux à visée pacificatrice. L'occasion aussi de rappeler le rôle d'anthropologues comme Margaret Mead, Claude Lévi-Strauss ou Alfred Métraux à l'UNESCO pour mettre en œuvre l'idéal d'une paix mondiale par la connaissance mutuelle des peuples.